Pouvoir et territoire.
Une émission où l'on parlera des différents territoires et de qu'est-ce qu'ils peuvent comme pouvoir.
Voilà, que peuvent-ils tout un programme ? Une émission mensuelle que nous vous proposerons donc tous les jeudis à 13h30 et puis certainement un autre jour de la semaine, mais on vous dira ça plus tard. Et aujourd'hui, pour la première,
nous parlerons des communes.
Les communes, donc le plus petit échelon local, plus petite collectivité territoriale.
Tout à fait. Et pour parler des communes, déjà, il faut rentrer un petit peu dans l'histoire. Pourquoi y a-t-il des communes en France ?
Un petit peu d'histoire.
Donc on va remonter quelques siècles en arrière, à l'époque médiévale, avec à l'époque trois sortes de territoires qui existent sur...
territoires.
Des territoires. Donc... Un territoire, la paroisse ecclésiastique, est en fait une circonscription religieuse et fiscale sur laquelle se fait l'administration du culte, la levée de la dîme. C'est en fait une communauté de fidèles avec un curé, une église et un cimetière. Un autre territoire, celui de la seigneurie, du seigneur, hein, qui est donc une circonscription judiciaire, fiscale évidemment, à chaque fois. Et enfin, la communauté, qu'on appelle parfois aussi paroisse fiscale, qui est une circonscription royale, à nouveau pour lever des impôts. Donc sur ces trois territoires de base de l'époque médiévale, on s'aperçoit que dès le XIIe siècle, et notamment dans le midi de la France, se met en place un mouvement communal, avec des institutions de type communal civil, au sein notamment des seigneuries. Ce sont des structures avec des syndics, des consuls, des échevins qui dirigent ces communautés, avec parfois la véritable mise en place de conseils, notamment dans les villes. Cependant, dès le XVIIe siècle, la monarchie absolue restreint progressivement le rôle et les compétences de ces conseils, de ces syndics, et qui ne servent plus dès lors que de relais pour la perception des impôts royaux. Alors, à la veille de la Révolution de 1789, à la fin du XVIIIe siècle, du fait des différents aléas historiques de toutes ces petites communautés, il est fréquent que les territoires paroisses, seigneuries, communautés ne se correspondent plus les uns aux autres. On a par exemple, notamment dans le cas dans les villes, d'une seule communauté ou paroisse fiscale avec de nombreuses paroisses ecclésiastiques. Et à l'inverse, dans les campagnes, on a plus de communautés que de paroisses ecclésiastiques.
Donc ça, c'était avant la Révolution. C'est vrai qu'on dit souvent que les communes qui ont été créées, tu vas nous le dire, je pense, au moment de la Révolution, ont été basées sur les anciennes paroisses.
J'ai entendu ça. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire c'est sur les anciennes paroisses fiscales et d'accord. Pas les anciennes paroisses ecclésiastiques, c'est-à-dire sur ce qu'on appelait les communautés, sur lesquelles étaient finalement levées la plupart des impôts. Hein. Et effectivement, c'est sur cette base-là que vont se créer les communes. Alors, il faut déjà se rappeler que le soir du 14 juillet 1789, après la prise de la Bastille, le prévôt des marchands de Paris, hein, qui était le représentant des marchands au sein du Conseil de la Communauté de Paris, eh bien, il est tué sur les marches de l'hôtel de ville par les troupes monarchistes. Après cet événement, très rapidement, une commune de Paris est immédiatement mise en place pour remplacer l'ancienne organisation qui datait du Moyen-Âge. Et afin de protéger la ville de Paris de toute manœuvre contre-révolutionnaire, on crée une garde municipale. Là, c'est vraiment la première commune de France qui est installée, d'accord, donc dès juillet 1789. Alors dans cette foulée, plusieurs autres villes suivent rapidement cet exemple, avec de nombreuses communautés qui s'organisent de la même façon. Un petit peu plus tard, à l'automne 1789, le 12 novembre, l'Assemblée nationale met en place l'organisation des départements et des communes sur l'ensemble du territoire national. Elle décrète qu'il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Deux mois plus tard, le 14 décembre 1789, la même assemblée précise ce découpage en départements, districts, cantons, etc. Et elle désigne précisément la commune comme la plus petite division administrative en France.
Ce qu'elle reste aujourd'hui,
tout à fait. Alors, finalement, avec cette loi du 14 décembre 1789, toutes les chartes des cités et des bourgades sont modifiées et presque toutes les anciennes communautés, c'est-à-dire les paroisses fiscales et quelques paroisses ecclésiastiques, sont érigées en communes. Et on a comme ça à peu près 41 000 communes, entre 41 000 et 44 000 communes selon les documents qui sont constitués. Elles ont toutes une base commune, un statut commun, un conseil municipal qui est élu au suffrage censitaire, c'est-à-dire en fonction de l'impôt qui est payé, et un maire qui est nommé.
Donc quelque chose d'assez proche, en dehors du suffrage qui était censitaire à l'époque, d'assez proche de ce qu'on voit aujourd'hui.
Avec aussi le fait que le maire soit nommé, non pas par le conseil, mais par un représentant de l'État.
Ah d'accord. Ouais.
Et puis chaque commune doit construire une maison commune, la mairie, pour pouvoir accueillir les réunions du conseil municipal et l'administration municipale. Donc finalement, en 1789, on a un renouvellement du système qui dirige le territoire, les territoires anciennement constitués des paroisses fiscales ou des paroisses ecclésiastiques, mais on n'a pas vraiment de remise en cause de ces territoires, qui sont les territoires de la vie quotidienne d'ailleurs.
Hein. Oui, qui restent à peu près tels quels, finalement. Il n'y a pas eu un grand changement pour les populations, finalement.
Non. Okay. En fait, le seul changement pour les habitants, ça a été la disparition de l'une des deux circonscriptions, c'est-à-dire ou la paroisse ecclésiastique ou la paroisse fiscale au profit d'une seule commune unique, finalement, qui était plus simple et qui a fait aussi que les taxes ont été bien moins élevées, puisque un certain nombre ont disparu.
D'accord. Voilà. D'accord, donc ça c'était la période de la Révolution, mais ça continue parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Oui, il y a le registre des naissances qui est attribué aux communes, c'est ça.
L'état civil. Quelques années après, le 20 septembre 1792, le registre des naissances, des mariages et des décès, qui était tenu par le curé de la paroisse, passe sous la responsabilité d'un officier public élu. Et donc les prêtres doivent remettre à ce moment-là à la mairie leur registre. Dans ce même texte, il est précisé aussi qu'un mariage civil est institué pour être célébré dans les mairies. Alors ça ne change pas grand-chose, hein, c'est-à-dire c'est juste la phrase « Au nom de Dieu, je vous déclare unis par les liens du mariage », qui devient « Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage ».
Ça change quand même beaucoup de choses.
Alors, ça change, voilà, au niveau sémantique, ça change beaucoup de choses, c'est juste un mot qui change, mais justement, ce recul des prérogatives de l'Église n'a pas été bien accepté partout, hein, et notamment dans l'Ouest et le centre du pays, de nombreux prêtres ont été réfractaires à cette nouveauté.
Et donc après, on passe au calendrier. Nouveau calendrier révolutionnaire.
Voilà, exactement. Donc, un an après, le 31 octobre 1793, c'est-à-dire le 10 brumaire de l'an 2, le terme « commune », au sens de l'administration territoriale actuelle, il est imposé par un décret de la Convention nationale. Voilà. La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que toutes les dénominations de ville, bourg ou village seront supprimées et que celle de « commune » leur est substituée. 7 ans après, en 1800, le 28 pluviose de l'an 8, c'est-à-dire le 17 février 1800, le premier consul Napoléon Bonaparte stabilise les structures administratives. Donc cette loi du 28 pluviose en 8 est fondamentale, puisqu'elle organise le découpage territorial national qui est encore actuel. Elle organise les préfectures, les sous-préfectures, les départements, les arrondissements, les cantons, les communes, le préfet de police de Paris et les conseils généraux.
Autant de structures sur lesquelles on reviendra dans notre émission, dans d'autres épisodes.
Ce sera la base de cette émission sur pouvoir et territoire. Cette loi du 28 pluviose de l'an 8 prévoit que chaque commune dispose d'un conseil municipal de 10 à 30 membres suivant la population de la commune, d'un maire et d'un adjoint. Les membres du conseil municipal sont élus au suffrage censitaire, hein, comme précédemment précisé. C'est-à-dire c'est un impôt plancher, finalement, qui doit être payé. Et le maire est nommé par le pouvoir central pour les communes les plus peuplées, par le préfet directement pour les autres. Le conseil municipal doit gérer le budget, les règles concernant les pâtures et les récoltes, la répartition des travaux d'entretien de la commune, les propositions d'emprunt et notamment les actions en justice.
Et tout ça, on arrive à la moitié du 19e siècle, en 1848, qui est une date clé quand même.
Qui est une date clé, effectivement, puisque pour un certain nombre d'élections, on passe au suffrage universel direct. Alors universel direct à l'époque, universel est assez restreint, puisque ce sont que les hommes de plus de 21 ans, et encore pas tous les hommes, pas les militaires, pas les prêtres, pas les gens des colonies non plus. Enfin voilà, il y a tout un... Donc on verra après, au cours du 20e siècle, que tout ça sera plus étalé. On va faire encore un petit bond dans le temps, se rapprocher de notre époque, avec la loi municipale de 1884 qui précise l'autonomie des municipalités tout en leur garantissant une stabilité statutaire. Cette loi octroie toute compétence aux communes pour régler par leur délibération toutes les affaires relevant de leur territoire et ayant un intérêt local. C'est-à-dire que les compétences de la commune sont finalement très vastes dès lors qu'elles touchent le territoire communal et l'intérêt local. C'est finalement la mise en place définitive de l'organisation des rôles et compétences des communes encore actuelles.
Voilà, tel qu'on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on va en parler. Bon, on a fait un petit tour d'histoire très rapide, mais après, depuis 1884, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé, sauf
quand même le nombre des communes qui a évolué au cours du 19e et du 20e siècle.
Alors, on en est où, là, aujourd'hui? Comment ça a évolué, en fait?
Pour résumer très rapidement, en 1789, entre 41 000 et 44 000 communes qui sont créées. En 1936, on n'en compte plus que 38 000 à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communes qui ont été fusionnées les unes aux autres, qui se sont regroupées. En 1971, le ministre Marcellin demande au préfet un plan de fusion de communes par département qui a été plus ou moins suivi des faits selon les cas, l'idée étant qu'on devait fusionner et faire disparaître 10 000 communes. Bon, finalement, ce sont 1 300 communes qui disparaissent entre 1968 et 1975, et depuis 1975, 300 communes ont été créées, et ça continue puisqu'en 2004, sur le territoire français, il y avait 36 568 communes. En 2013, 36 680.
Oui, ça augmente encore. Donc.
Voilà, ça augmente encore. Alors, il y a notamment le cas du nouveau département de Mayotte qui a ramené une petite vingtaine de communes. Et puis, la défusion de certaines communes parce que des populations avaient augmenté.
D'accord. Oui, voilà. Encore aujourd'hui, il y a des communes qui se redécoupent.
Tout à fait.
D'accord.
Alors, c'est intéressant de voir ce petit échelon territorial de la commune parce que, en Europe, la plupart des pays ont eu un découpage territorial à cette même échelle. Hein. Alors aujourd'hui, quasiment seule la Suisse qui conserve encore cet échelon avec un niveau actif. Quoi. Ailleurs, les communes ont été très largement fusionnées dans les années 70, hein, dans le même esprit que cette loi Marcellin qui a eu très peu d'effet en France. Et on peut voir que par exemple, en Allemagne, l'Allemagne réunifiée, il n'y a que 11 253 communes à comparer avec les 38 000 communes françaises. En Belgique, on est passé entre les années 70 et les années 80 de 2 400 communes à un peu moins de 600.
Oui.
Alors c'est intéressant de voir aussi que dans toute l'Union européenne, en 2004, il y a 75 000 communes avec les 37 000 presque communes de la France, c'est-à-dire que la France représente 50% du total des communes de l'Union européenne pour 14% de la superficie et 16% de la population. Donc c'est un peu une spécificité française.
Une spécificité française dont on verra bon, qu'il y a eu aussi depuis pas mal d'essais de nouveau, de les regrouper, il y en a tout le temps, etc. On en reparlera dans d'autres émissions également, de tout ce qu'on appelle les intercommunalités. Mais bon, en effet, ces 36 000 communes françaises, c'est un peu une spécificité qui font que dans quelques semaines, on va aller élire nos conseillers municipaux, justement. Ouais. Voilà.
Après, on pourrait peut-être juste donner 2-3 petits chiffres comme ça pour des chiffres de population. Hein. Déjà dire que sur les 38 000 communes en France, plus de 32 000 ont moins de 2 000 habitants. C'est-à-dire que c'est quand même la grosse majorité. Et on a seulement 10 000 communes on a 10 000 communes qui ont moins de 210 habitants. C'est-à-dire quand même, c'est vraiment des toutes petites communes qui représentent quasiment un tiers du nombre total des communes.
D'accord. Et quand même, les petites communes, donc les moins de 2 000 habitants, tout compris, correspondent à un quart de la population, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc finalement, on a assez important quand même encore. On a l'impression d'être vraiment dans une France très urbaine, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'habitants encore qui vivent dans des toutes petites communes.
Tout à fait. Mmh. Ouais. Alors, dans les histoires de records, on pourrait dire que la plus petite commune de France a un seul habitant, ça s'appelle Rochefourchat dans la Drôme. La deuxième commune la moins peuplée de France, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, c'est Majastre avec 2 habitants. Et donc, des départements qui sont très de moyenne montagne méditerranéenne, hein, qui nous étonneront moins. La commune avec 3 habitants est en Meurthe-et-Moselle. On s'y attendrait moins.
D'accord. Il y a quand même des communes aussi. Alors ça, moi, je l'ai appris aussi. C'est intéressant. Il y a des communes sans habitants.
Et alors, il y a des communes sans habitants. Il y a 6 communes en France qui n'ont aucun habitant. Qui sont des communes qu'on appelle « mortes pour la France », qui ont été dévastées par la guerre de 14-18, et pour lesquelles il n'y a pas d'habitants, mais il y a quand même un conseil municipal de 3 membres qui est désigné par le préfet. Ça se passe dans le département de la Meuse.
C'est extraordinaire, ça. D'accord. Tu as quelques, je ne sais pas, peut-être petits chiffres pour la Lozère.
Alors, pour la Lozère, par exemple, Florac, donc c'est les populations de 2011, hein, recensement INSEE, la population légale. Pour Florac, c'est 1963 habitants, 2119 pour la Cadourgue, 2969 pour Langogne, 4255 pour Saint-Chély-d'Apcher, 4992 pour Marvejols, 12163 pour Mende.
D'accord. Donc, parmi les villes de Lozère, on est vraiment la plus petite. Florac, c'est quand même vraiment la plus petite ville de Lozère. Après, ça, c'est encore plus bas.
Tout à fait.
Tous les villages, etc. D'accord. Bien. Alors, maintenant, quand même, ce que peut-être nos auditeurs attendent, qu'est-ce qu'elles font, ces communes ? C'est quoi leur rôle ? C'est quoi leur organisation ? Comment ça fonctionne ?
Eh oui, puisque la commune est une collectivité territoriale est également une personne morale de droit public. Donc son existence d'abord est garantie par la Constitution de la Ve République. La commune, on l'a dit, est le premier niveau de l'administration territoriale. Alors l'ensemble du territoire national est découpé en communes, hein, sauf quelques cas de Saint-Barthélemy et Saint-Martin aux Antilles, de Wallis et Futuna dans le Pacifique qui sont divisés en trois royaumes et pas en communes. Puis évidemment, il n'y a pas de communes sur les terres australes françaises ni sur l'île de Clipperton.
Bon, enfin, en métropole, ouais. Et puis plus largement, même dans les dom-toms, on a bien des communes.
On a des communes, sinon partout ailleurs. Toutes les communes, malgré leur disparité de population de superficie, ont la même structure administrative et les mêmes compétences légales. À l'exception de quelques cas, Paris, Lyon et Marseille, qui sont des villes, des communes dirigées par la loi PLM.
Avec des arrondissements, c'est ça le
Avec des arrondissements communaux, des systèmes un petit peu particuliers. D'accord. Les communes d'Alsace et Moselle aussi, qui ont appartenu un moment à l'Allemagne, ont des compétences et des statuts administratifs un petit peu particuliers. Hein. Et puis les communes de la petite couronne parisienne ont des spécificités qui concernent uniquement la police administrative. Mais sinon, toutes les autres ont les mêmes structures administratives, les mêmes compétences légales. Alors d'abord, la commune dispose d'un budget propre, qui est principalement composé des transferts de l'État, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, et puis d'un budget qui est également alimenté par les impôts directs locaux, les taxes foncières, les taxes d'habitation et avant la taxe professionnelle. La commune est gérée par un conseil municipal. Elle est administrée par un conseil municipal qui est au minimum de 9 membres. Ces membres sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans.
Donc les fameuses élections du 23 et du 30 mars prochain.
Tout à fait. Le conseil municipal est chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune. Il doit se réunir au moins une fois par trimestre, éventuellement sur demande motivée d'au moins un tiers de ses membres. Donc la plupart du temps, il se réunit en fait une fois par mois, c'est le plus fréquemment.
D'accord.
Les séances du conseil municipal sont publiques, mais seuls les élus peuvent s'exprimer.
Oui, c'est ça, on peut y aller, mais on n'a pas le droit de causer.
Voilà, tout le monde peut y assister, peut entendre ce qui se passe, mais seuls les élus ont le droit de s'exprimer, de prendre part au débat.
Mais c'est important de savoir qu'elles sont publiques, hein. Beaucoup de gens ne savent pas forcément ou n'osent pas y aller, alors qu'en fait, les débats sont publics.
Tout à fait. Après, il y a le conseil municipal et il y a, bien connu, le maire. Le maire, il est élu par le conseil municipal au sein du conseil municipal. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est extérieur au conseil municipal. Mmh. Hein. Le maire est assisté d'un ou de plusieurs adjoints qui peuvent recevoir des délégations. Le maire, c'est en fait l'exécutif de la commune. C'est lui qui est chargé de préparer et d'appliquer les décisions du conseil. Alors, il est également l'employeur du personnel communal. Mmh. Et puis, il exerce toutes les compétences de proximité avec le conseil municipal, c'est-à-dire sur les écoles, l'urbanisme, les permis de construire, l'action sociale, la voirie, les transports scolaires, le ramassage des ordures ménagères, l'adduction d'eau potable,
en fait,
l'assainissement.
Tout ce qui intéresse la vie quotidienne des gens.
C'est
ça, hein, c'est énorme, en fait.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui intéresse le territoire communal et l'intérêt local. Voilà.
Mais il y a une particularité, alors ça aussi c'est quand même particulier, c'est la seule collectivité locale, la commune, qui fait que le maire est aussi agent de l'État. En fait.
Tout à fait, le maire est agent de l'État et donc c'est le représentant de l'État sur le territoire communal. Oui. Et donc pour cela, il a des fonctions d'État civil, il a des fonctions d'ordre public, de pouvoir de police et les fonctions d'organisation des élections et également de délivrance des titres réglementaires, titres de séjour, etc.
D'accord, donc deux grands rôles quand même, le représentant de l'État et...
Et l'exécutif du conseil, municipal. Ouais. Alors, le maire est également souvent un grand électeur, pas nécessairement, c'est pas une obligation. Mais en fait, le système des grands électeurs prend, pareil, la commune est le plus petit échelon au niveau du système des grands électeurs, hein, puisque les grands électeurs, ce sont ceux qui votent au Sénat, pour l'Assemblée sénatoriale notamment.
Oui, oui.
Donc pour cette élection, il y a un collège départemental de grands électeurs qui sont composés donc des députés, des sénateurs départementaux, des conseillers régionaux de la section départementale, des conseillers généraux, plus les délégués des conseils municipaux avec un ratio de représentants, de nombre de délégués par rapport au nombre des membres du conseil municipal qui est assez compliqué, notamment pour les grandes communes.
D'accord. Donc ça, à retenir que quand même, nos maires peuvent être appelés à voter, à élire les sénateurs.
Tout à fait, dans le cadre du suffrage universel indirect.
Oui. Voilà.
Alors la commune, elle est également propriétaire d'un certain nombre d'édifices, des édifices publics, mairie, école, église, la plupart pour les plus classiques, d'autres édifices de bâtiments d'habitation, de presbytères, etc.
Oui, les communes sont devenues propriétaires des biens de l'église, en fait, à la Révolution.
Des biens de l'église et souvent des biens seigneuriaux également.
Les seigneurs aussi.
Il peut y avoir des terrains, c'est-à-dire les cimetières sont les plus connus, mais les terrains de foot également, la plupart du temps. Et alors, il existe aussi d'autres biens qu'on trouve sur la commune, qui sont des biens collectifs, qui sont des biens sectionaux, qui n'appartiennent pas en propre à la commune, mais qui appartiennent aux habitants d'une section cadastrale. C'est souvent des bâtiments, des fours à pain, etc., les lavoirs, ou des terrains, des pâtures, des bois, ce genre de choses.
Oui. Ici, on connaît bien les sectionaux pour les terrains agricoles ou le bois.
Exactement. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a des bâtiments qui peuvent être sectionaux.
D'accord,
Et donc, qui appartiennent aux habitants de la section cadastrale. Alors, la section cadastrale, une section de commune, c'est ni une collectivité territoriale, ni un établissement public, mais officiellement une institution administrative au statut singulier, ce qui est très flou. Alors, ce statut, justement, il est en cours de réactualisation par le Sénat depuis le printemps 2013, et la tendance, a priori, ça devrait être qu'en fait, tous les sectionaux devraient être donnés en direct aux communes, ce qui pose quand même un problème de droit de regard et de gestion directe des habitants, qui est en rupture totale avec les usages justement pluriséculaires sur ces pâtures, sur ces les fours à pain ne servent plus beaucoup aujourd'hui, mais les gens sont parfois très attachés à ça.
Mmh.
Ouais. Enfin, la commune, c'est le territoire de l'impôt foncier. Hein. L'impôt foncier, donc, qui est calculé sur la base du cadastre, des relevés du cadastre. Alors, pareil, là. Le cadastre a été lancé en 1790. C'est une loi qui donne une définition fiscale des communes. En mars 1790, donc la définition fiscale des communes. En novembre 1790, un décret enjoint les communes de dresser un tableau détaillé de leurs parties. Et en septembre 1791, un nouveau décret leur indique la façon de lever les plans.
Bon, finalement, c'est la création du cadastre, en fait.
C'est la création du cadastre, mais ça n'a pas marché du tout. C'était beaucoup trop cher. Et donc, c'est finalement Napoléon Bonaparte, premier consul, en 1808, qui arrête la mise en place vraiment d'une procédure de levée des premiers plans cadastraux par masse de culture. C'est la base de l'impôt foncier. Et puis finalement, en 1805, ce sera vraiment les plans cadastraux parcellaires tels qu'on les connaît actuellement, ce qu'on appelle souvent les cadastres napoléoniens.
D'accord, on a fait un peu le tour de, très rapide quand même, enfin bon, ça donne déjà pas mal d'idées, du rôle, des compétences de la commune.
On a fait à peu près le tour du rôle et des compétences de la commune.
Bien. Alors après, il y a depuis quelque temps, même depuis certainement longtemps, des projets de coopération, de regroupements intercommunaux, de syndicats intercommunaux, beaucoup de choses dont tout le monde a entendu parler.
Ce sera l'occasion d'une autre émission.
Voilà.
Sur l'intercommunalité.
Je vous propose que ce soit le thème de notre prochaine émission. Eh bien, nous vous remercions beaucoup de votre attention et on espère vous avoir appris quelques petites choses.
Si on a réussi, ce sera déjà ça. Merci.
Au revoir.